de cerveau.
Ah, dis donc.
Bien.
Ah oui. Who's got a computer for a mind? The brain. Who's got an IQ like an Einstein?
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tous les samedis, depuis le début du mois de juillet, nous nous promenons dans les circonvolutions du corps calleux. Nous explorons les lobes frontal, pariétal, temporal et occipital. Nous nous aventurons vers le cervelet en allant y voir du côté du thalamus. Bref, nous parcourons les méandres du cerveau. Le développement des neurosciences cognitives ces 40 dernières années a été, on l'a vu, spectaculaire. Et l'on sait aujourd'hui beaucoup de choses sur ce qui se passe dans nos boîtes crâniennes lorsque nous pensons, lorsque nous apprenons, lorsque nous nous souvenons et même lorsque nous aimons. Après avoir exploré les mécanismes cérébraux de notre conscience et ceux de notre mémoire, le temps nous a semblé venu, en guise de conclusion, de faire comme un retour en arrière ou aux sources, bref, de commencer pour finir par le commencement. Comment le cerveau devient-il une machine à penser? Comment le devient-il à l'échelle de l'histoire de notre espèce et à l'échelle d'une vie humaine? Autrement dit, comment le nourrisson apprend-il à penser, à parler? Comment se forme sa conscience, ses souvenirs? Pourquoi l'espèce humaine s'est-elle tant différenciée sur ce terrain de ses cousins les primates? Ces questions sont au cœur des recherches de celles que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour en parler. J'ai nommé Ghislaine Dehaene, pédiatre et directrice de recherche au CNRS. Bonjour.
Bonjour.
À mon avis, les enfants sont très intelligents et une même personne est à sa naissance presque plus intelligente qu'elle ne le sera plus tard, bien qu'elle n'ait pas les moyens de l'exprimer. C'est pour ça que je trouve qu'on n'a jamais assez de respect pour un être humain qui est dans la parole depuis la vie fœtale et qui a toujours entendu des grandes personnes parler entre elles. Et la seule manière de respecter un être humain depuis son petit âge, c'est de lui parler, qu'il entende ou non. Ceci prouve, de la part de l'adulte, qu'il le considère comme un interlocuteur valable. Et c'est cette attitude-là que les parents doivent prendre très tôt. Parce que quand est-ce qu'ils vont commencer à parler à leur enfant s'ils ne commencent pas dès qu'il est petit? Il n'y aura pas un jour J où ils vont se dire « Tiens, il comprend ». Alors, il faut savoir que quand un enfant commence à parler une langue, c'est qu'il y a 9 mois, ou au moins 9 mois, où s'organise le langage, c'est-à-dire qu'il l'entend, bien qu'il ne puisse pas le parler. Alors pourquoi ne pas lui parler comme à une personne aussi valable que les voisins que nous rencontrons et à qui nous parlons?
À l'instant, la voix de Françoise Dolto, c'est une archive qui date de 1977, un extrait de la célèbre émission « Lorsque l'enfant paraît » diffusée sur France Inter et au cours de laquelle Françoise Dolto répondait à des questions d'auditeurs. Un être humain est dans la parole depuis la vie fœtale, nous dit Dolto. Ghislaine Dehaene, vous qui travaillez sur le cerveau du bébé et sur la question fondamentale de l'apprentissage du langage, on va y revenir. Est-ce que vous vous sentez une filiation avec les travaux de Dolto? Est-ce qu'il serait juste de dire que vos recherches se situent dans sa continuité?
Oui, pour une certaine mesure, parce que c'est vrai que le bébé entend et est baigné dans le langage très tôt. La petite différence, c'est que après, on a un peu poussé ce trop tôt, un peu trop tôt, et qu'il faut quand même que le cerveau soit formé, que l'oreille soit formée, et qu'il y ait un certain nombre de processus de maturation pour que l'enfant, le bébé, le fœtus, soit dans le même état de perception que l'adulte.
Alors, on va détailler justement ces étapes, mais d'abord, un petit point d'histoire. Est-ce que vous savez depuis quand les neurosciences s'intéressent au bébé? Depuis quand est-ce qu'il est devenu un sujet d'étude?
À l'époque de Françoise Dolto et même avant, il y a des recherches en sciences cognitives très très tôt qui ont commencé à regarder comment le bébé percevait son environnement. Alors à l'époque, on avait des méthodes très indirectes pour mesurer ce que le bébé pouvait percevoir. On utilisait la succion, on utilisait les battements cardiaques et donc par exemple, on présentait une syllabe, ba, 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 on mesure les battements cardiaques, et puis tout d'un coup on change, on passe à bi, 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 et si le bébé perçoit la différence, on a un changement, puisqu'on a un réflexe d'orientation, un réflexe qu'on appelle vagal, qui fait qu'on a ces modifications du battement cardiaque, et donc on en déduisait que le bébé percevait la différence entre bas et bi. Donc ça remonte dans les années 60-70, il y avait déjà des recherches chez le bébé.
Mais du coup, ce test de la succion, ça veut dire que plus le bébé active le mécanisme, plus il est intéressé, c'est ça le principe?
C'est-à-dire on joue beaucoup dans les recherches comportementales qu'on fait chez le jeune enfant sur les effets de surprise, et donc sur le fait qu'un comportement s'arrête quand on est surpris. Par exemple, vous êtes en train de téter, tout d'un coup, donc vous écoutez par exemple des phrases de votre langue maternelle, et puis tout d'un coup, c'est toujours la même voix, mais elle a changé de langue. Vous êtes surpris, vous arrêtez un petit peu de téter avant de recommencer parce que vous voulez entendre plus de cette nouvelle chose. Et donc, c'est des méthodes comme ça qui étaient utilisées pour essayer de comprendre et qui sont toujours utilisées pour essayer de comprendre comment le bébé perçoit le monde.
Avant de parler des capacités cognitives du nourrisson proprement dit, je voudrais commencer par évoquer la manière dont se forme le cerveau et d'abord dire... À quel moment du développement de l'être humain commence cette formation? Est-ce que ça se passe à partir du moment où il est né? Est-ce que ça démarre avant?
Ça démarre avant. Il y a une rupture très nette quand on naît, puisque tout d'un coup, on passe d'un milieu aquatique à un milieu aérien, et on va voir des choses qu'on ne voyait pas avant. Donc la naissance représente quand même une grosse frontière. Mais avant, bien sûr, le cerveau a commencé à fonctionner. Les neurones qui se développent au centre du cerveau vont migrer vers la périphérie, se mettre en place progressivement, et commencer à recevoir des informations de l'extérieur, puisqu'il faut que les fibres aussi venant de la rétine, venant de l'oreille, se développent et atteignent les cellules cérébrales. Et disons qu'à partir du sixième mois de grossesse, le bébé entend ce qui se passe à l'intérieur du ventre, donc essentiellement les bruits cardiaques, le bruit dans l'artère placentaire, ça fait pshou, pshou, c'est un milieu assez bruyant, les borborygmes intestinaux, vous voyez comme c'est très intéressant. Et puis par-dessus tout ça, il y a la voix de la maman. La voix de la maman qui est transmise par vibration, puisque quand vous parlez, par exemple, si vous mettez la main sur votre sternum, vous allez sentir les vibrations de la parole, et bien c'est les mêmes vibrations qui sont transmises contre le muscle utérin, le liquide amniotique et l'oreille, qui est déjà bien formée à 6 mois de grossesse et qui donc vont répondre à ces vibrations de la voix maternelle. Alors, un peu de déception pour les papas, ils sont un peu trop loin pour que le fœtus les entende. Donc les papas, s'ils veulent que le bébé les entende, enfin le fœtus les entende, ils doivent parler contre le ventre de la maman pour que ça passe. Alors ça, c'est à 6 mois de grossesse. Et puis, au fur et à mesure qu'on approche du terme, eh bien, il va aussi commencer à avoir de la mémoire de ce qui se passe. Donc on pense que la mémoire commence vers le dernier mois de la grossesse. Donc il va se souvenir, par exemple, de comptines que la maman peut répéter. À la naissance, il va reconnaître la voix de sa maman, donc il a appris in utero, et il va commencer déjà à apprendre des caractéristiques de sa langue maternelle. Donc ça commence, comme le dit Françoise Dolto, dans le ventre de la maman, effectivement.
Mais là encore, on se demande à vous écouter, comment est-ce qu'on a pu mesurer tout ça? Même chez un nourrisson, la question se pose, mais alors in utero
Oui, c'est un petit peu toujours acrobatique les recherches chez le fœtus. Alors, au tout départ, à nouveau, on peut enregistrer les battements cardiaques du fœtus, puisque si vous allez à la maternité quand vous êtes enceinte, c'est une des choses qu'on va vérifier, c'est si le cœur du bébé bat bien. Donc, comme tout à l'heure, je le disais pour le bébé après la naissance, eh bien, in utero aussi, si vous faites des bruits près de du ventre de la maman et que vous passez de bas à bi, on voit qu'effectivement, le cœur du fœtus va monter. Montrer une surprise, enfin va diminuer ses battements, puis évidemment reprendre. Mais donc c'est ces réflexes d'orientation qu'on mesure. Certains ont développé ce qu'on appelle une magnétoencéphalographie fœtale. Donc la magnétoencéphalographie enregistre des petits champs magnétiques, et donc ils ont fait essentiellement cette machine au départ pour les maladies cardiaques, et puis du coup, comme elle existait, il y en a deux au monde, ils se sont dit on va regarder si le bébé perçoit aussi ce qu'on lui présente, et donc ils ont vu des réactions du fœtus à des sons extérieurs. Et puis l'autre population qui est très intéressante, parce que du coup on peut la tester comme le bébé après terme, ce sont les prématurés, puisqu'on a malheureusement des bébés qui naissent trop tôt, qui naissent à 6 mois de grossesse. Donc certains sont très malades. Ils sont évidemment en incubateur à 6 mois de grossesse, mais on peut aussi les tester en restant évidemment tout à fait non nocifs, en leur mettant de la parole dans l'incubateur et en regardant avec l'électroencéphalogramme ou avec d'autres techniques basées sur la lumière comment le cerveau de ce prématuré répond. Et donc, on pense que le prématuré et le fœtus, étant à peu près au même âge, devraient avoir les mêmes indices de maturation cérébrale. Ça, on peut discuter après, parce que, évidemment, l'environnement in utero et dans un incubateur, dans une unité de soins intensifs, sont quand même pas du tout les mêmes.
Et pour prendre un exemple très, très concret, vous avez évoqué le fait qu'on sait aujourd'hui qu'un nourrisson à la naissance se souvient de la voix de sa mère. Ce test-là, il se déroule comment ?
Alors là, c'était une expérience faite par nos collègues du CNRS, Jean-Pierre Le Canuet. Et donc, il présente... Alors, c'était avec de la succion. Donc, le bébé pouvait, s'il tétait très vite, obtenir la voix de sa maman. S'il tétait plus lentement, avoir la voix d'une autre maman. Et donc, c'était donc des bébés de quelques jours, testés en fait à la maternité Port-Royal à l'époque, Baudeloc même à l'époque. Et donc, les bébés changeaient leur succion pour obtenir la voix de leur maman. Donc évidemment, il y avait un autre groupe qui devait, lui, ralentir pour avoir la voix de la maman. Sinon, s'il accélérait, il y avait la voix de l'autre maman. Donc comme ça, on peut voir que donc, le bébé choisit d'écouter la voix de sa maman.
En termes de composition, qu'est-ce qui différencie si on observe un cerveau de nourrisson et un cerveau adulte? Qu'est-ce qui les différencie? Qu'est-ce qui se voit tout
taille.
De suite
Les bébés ont évidemment une très petite tête. Alors, ce qu'on voit très bien pendant les derniers mois de la grossesse, c'est la gyrification. Donc, à 6 mois de grossesse, le cerveau est très lisse. On dirait un cerveau de petit macaque. Hein, et puis, pendant les 3 derniers mois, on voit cette gyrification très importante qui est en fait quasiment celle de l'adulte à la naissance à terme. Ça va encore un petit peu se complexifier, mais c'est la même gyrification. Ce sont les mêmes réseaux à l'intérieur. Donc, quand on fait une IRM, par exemple, pour voir la structure du cerveau, ce sont les mêmes grandes fibres de connexion qui sont déjà en place. Évidemment, la même structure globale. Donc, à terme, c'est déjà un petit cerveau d'adulte. Alors, ce qui change, vous allez me dire, mon bébé, il est quand même pas... Ça ne sert à rien d'attendre 20 ans. On nous dit toujours que le cerveau se développe pendant les 20 premières années de la vie. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est qu'on a, d'une part, une myélinisation des connexions qui relient les différentes régions cérébrales.
Alors, une myélinisation.
Qu'est-ce que ça
veut dire ? Éclairez-moi, oui.
Eh bien, la myéline est une substance qui va entourer les axones. Alors, qu'est-ce que sont les axones ? Ce sont les connexions, ce sont les prolongements des neurones qui vont permettre à un neurone de connecter à un autre neurone. Et il faut accélérer à tout prix la transmission de l'influx nerveux. Et donc, la myéline va permettre d'accélérer. Et donc, pourquoi il faut accélérer ? Bah, parce que plus ça va vite... plus l'information est transmise vite, plus les calculs sont efficaces. Et aussi parce qu'on a une tête qui grossit. Et donc, il faut pouvoir compenser l'augmentation de la taille de la tête et d'amener une information d'un endroit à l'autre avec suffisamment de vitesse. Qu'on oublie toujours, parce que quand on pense souvent à un cerveau et qu'on essaye de l'imaginer, on pense un peu à un ordinateur. Et on pense à tout ce que peuvent faire maintenant les ordinateurs. Et évidemment, dans un ordinateur... l'activité à un endroit du disque dur ou à un autre endroit, c'est exactement la même. Il n'y a pas de raison de se mettre plutôt à un endroit de ce disque ou à un autre endroit de ce disque. Dans le cerveau, c'est totalement différent. Quand vous voyez quelque chose, il faut que la lumière soit traitée dans la rétine, passe dans le thalamus et toutes ces structures que vous évoquiez au début de l'émission, arrive complètement à l'arrière de la tête, dans le lobe occipital, puis repasse devant. Donc en fait, vous avez en permanence une transmission entre différentes régions cérébrales et donc il faut arriver à passer cette information sans prendre trop de temps. Alors ça c'est une des choses, la myélinisation. L'autre chose c'est qu'il faut que ces neurones qui sont à la périphérie du cerveau s'organisent pour se connecter entre eux juste localement. Et là aussi, il faut que ça se multiplie, que ça s'élimine. Et il y a plein de processus qui se mettent en place. Donc en fait, ce qu'on voit, surtout pendant le développement, c'est essentiellement un raffinement de tous ces circuits qui étaient là dès le départ. Donc en gros, on a le plan chez le fœtus. Et puis après, on raffine tout ce qui se passe pendant ces 20 ans qui suivent.
On a évoqué le fait que malgré tout, le fœtus déjà entend, notamment la voix de sa mère et tout un tas de bruits. Est-ce que ça veut dire qu'il apprend déjà in utero?
Il va apprendre la voix de sa mère, par exemple, puisque s'il la reconnaît de la voix d'une autre femme, ça veut dire qu'il a appris les caractéristiques de la voix de sa maman. Il apprend sa langue maternelle, quelque part. Ça commence déjà, puisque à la naissance, on a pu montrer que si une femme, donc bilingue, parlait français et parlait russe, le bébé français notait très bien qu'on passait d'une langue à l'autre, alors que la voix n'avait pas changé. Donc ça veut dire qu'il avait reconnu certaines caractéristiques du français qui étaient différentes de celles du russe pour pouvoir réagir au moment où cette femme passait d'une langue à l'autre.
Et est-ce que cette caractéristique, c'est ça qui nous différencie des singes? Est-ce que le fait que le cerveau est capable comme ça de réagir, si je puis dire, ou d'être modelé par l'extérieur,
ce serait une différence? On est quand même des primates, et donc on a une longue... on a un peu les mêmes réactions que les grands singes, et donc eux aussi vont réagir à différentes caractéristiques acoustiques, et sans doute réagir au son de leur espèce et différencier. Je ne sais pas, je n'ai pas vu d'études chez la maman chimpanzé et le bébé nouveau-né chimpanzé, mais j'ai aucun doute que la voix, les cris, les vocalisations d'une mère chimpanzé sont différentes d'une autre, et que le bébé chimpanzé à la naissance arrive à les discriminer. Alors, il y a plus d'études chez les petits macaques, et ils ont aussi des réactions vis-à-vis de leurs parents, évidemment, et donc des reconnaissances d'un individu particulier par rapport à un autre très très tôt. Donc c'est pas ça qui fait la différence entre nous et les primates. Ce qui fait la différence, c'est plutôt la complexité de ce qu'on peut acquérir. Le fait qu'on sache très vite que la langue transmet de l'information et que cette information va nous aider à comprendre le monde. Et ça, c'est quelque chose, on se demandait, c'est à partir de... Parce que c'est pas le tout que le bébé reconnaisse la voix de sa maman, reconnaisse les phrases qui pourraient venir de sa langue maternelle, mais est-ce que le bébé sait que je suis en train de lui expliquer quelque chose sur le monde, je suis en train de lui dire que le lait est chaud, par exemple, et que c'est pas la même chose que le lait est froid, parce que dans un cas, il va se brûler, pas dans l'autre. Et le bébé comprend très vite que le fait d'écouter quelqu'un, le fait d'utiliser ce moyen de communication est transmettre de l'information. Alors, il y a une expérience qui vient d'être publiée assez drôle où quelqu'un parle et puis ensuite tourne les yeux d'un côté ou de l'autre. Alors, les auditeurs ne voient pas que je suis en train d'imiter.
Mais vous tournez les yeux à droite et à gauche.
Droite ou à gauche. Et ensuite, un objet sort du côté où on a tourné les yeux. C'est des petits bébés de 4 mois, donc des bébés très très jeunes. Si la personne a parlé avant de tourner les yeux, ils vont aller beaucoup plus vite que si elle n'a rien dit ou si elle a toussé. Donc ça veut dire que ces bébés de 4 mois savent, ils ne comprennent pas, hein, soyons bien d'accord, ils ne comprennent pas ce que je suis en train de dire, mais ils ont compris que le fait de parler était sans doute quelque chose qui allait me donner une indication sur le monde, et donc ils utilisent ça pour se dire, bon, elle a parlé, elle a bougé les yeux, donc il doit se passer quelque chose.
Et ça, c'est une attention particulière, voilà, à quelqu'un qui s'exprime.
Voilà. Alors, il y a beaucoup d'autres études, c'est un petit peu un sujet de recherche actuellement, beaucoup d'autres études qui montrent qu'effectivement, les bébés utilisent la parole pour... par exemple, il y a deux personnes, je pense à une autre étude... deux personnes qui sont... alors, comment ça se passe? Il y a une première personne, voilà, qui voit qu'il y a deux objets devant elle et elle montre qu'elle préfère l'objet A par rapport à l'objet B. Il y a une deuxième personne qui rentre, qui, elle, n'a aucune préférence pour les deux objets. Puis après, le bébé voit les deux personnes ensemble, mais la première personne qui préférait un des objets est trop loin de l'objet A qu'elle aimait. Et elle dit Koba. Dans ce cas-là, le second expérimentateur tend l'objet A, l'objet préféré, ou tend l'objet B. Le bébé très surpris quand elle tend le mauvais objet. Par rapport, évidemment, à une situation contrôle où la première personne tousse, dans ce cas-là, le bébé n'a pas aucune attente. Le deuxième peut donner l'objet A ou l'objet B, elle a toussé, donc elle n'a pas dit qu'elle voulait quelque chose. Et donc ça, c'est des bébés de 10 mois qui réagissent comme ça. Alors vous voyez bien aussi que la méthode est très indirecte. Ce qu'on mesure à chaque fois, c'est le temps de regard du bébé. Et à chaque fois qu'il est surpris, on le voit qu'il regarde plus longtemps. Et donc, c'est un petit peu comme ça qu'on comprend qu'il s'attendait à certains événements et quand ils ne sont pas là, il est surpris. Alors, il y a plein d'autres anecdotes comme ça. Il y a une... une autre étude qui montre que les bébés utilisent les noms pour deviner qu'il y a des catégories dans le monde. Par exemple, on montre une image de dinosaures, donc à des bébés de 3-4 mois, ils n'ont pas vu beaucoup de dinosaures, donc un diplodocus, et on lui dit « c'est un cobaye ». Je ne sais pas, un tyrannosaure, et on lui dit c'est un cobaye. Un autre dinosaure, et on lui dit c'est un cobaye. Chaque fois qu'il voit une image différente de cette catégorie dinosaure, on lui dit c'est un cobaye. Et après, on présente au bébé une image de dinosaure à côté d'une image de poisson, et on regarde vers laquelle il va se tourner. Et donc, généralement, il a vu plein de dinosaures, on s'attend à ce qu'il se tourne vers le poisson, s'il a noté que toutes ces images avaient un point commun, c'était d'être des dinosaures. Effectivement, ils se tournent vers le poisson. Maintenant, vous allez me dire, peut-être ils préféraient juste les poissons, le coba, ça n'a rien à voir dans l'histoire. Sauf que si on fait la même étude en disant bibibiboup, enfin en utilisant de la musique et en faisant bibibiboup à chaque fois qu'on présente le dinosaure, à ce moment-là, ils ne s'intéressent pas plus que ça au poisson, ils s'orientent vers le poisson. C'est-à-dire que ça a été interprété comme montrant que le fait de dire, d'utiliser de la parole, d'utiliser toujours coba, en face de cette image de dinosaure, montrer au bébé qu'il y avait une catégorie commune à travers toutes ces images, qui était celle d'être des dinosaures. Dinosaures tout aussi abstraits que coba entre nous, hein, pour un bébé de 4 mois. Mais c'est vraiment d'arriver à... Enfin, il semble que le bébé utilise le fait qu'on parle pour l'aider à comprendre le monde.
Lait.
Lait. Merci, lui, quand même.
C'était la première fois qu'il sortait de la bouche de Victor un son articulé. Madame Guérin ne l'entendit point sans la plus vive satisfaction. Pour moi, je fis une réflexion qui diminua de beaucoup à mes yeux l'avantage de ce premier succès. Ce n'était qu'au moment où, désespérant de réussir, Madame Guérin venait de verser le lait dans la tasse que le mot lui avait échappé avec une petite grimace plaintive. Je sentis qu'il ne fallait surtout pas en rester là et j'attendis impatiemment que Victor me réclame à nouveau un bol de lait. Victor, demande-moi ton lait. Lait ! Lait ! Non. Attends. Lait. Lait. Tiens, regarde ce que je vais faire. Non, non, Victor. Non. Non. Non, décidément, ce n'est pas ce que j'espérais. Si le mot était sorti de la bouche de Victor avant la concession de la chose désirée, c'en était fait. Le véritable usage de la parole était saisi par lui, un point de communication s'établissait entre nous, et les progrès les plus rapides découlaient de ce premier succès. Au lieu de quoi, je n'avais obtenu qu'une expression insignifiante pour lui et inutile pour nous du plaisir qu'il avait ressenti.
À l'instant, un extrait du film de François Truffaut, L'enfant sauvage, un film de 1969 qui est inspiré par l'histoire vraie de Victor de Laveyron, un enfant trouvé à la toute fin du 18e siècle, pardon, et qui avait été recueilli par le docteur Jean Itard, interprété par Truffaut lui-même dans le film. Alors que beaucoup de contemporains le tenaient pour un enfant qui avait des difficultés mentales, le docteur Itard, lui, tâcha de lui apprendre à parler, ce qu'il ne parvint pas tout à fait à faire, comme on entend dans cet extrait. Ghislaine Dehaene, la question de l'apprentissage du langage est le cœur de vos recherches. On a commencé à l'entendre. Est-ce que c'est vrai qu'un enfant qui n'aurait pas appris à parler tout petit serait incapable d'apprendre l'usage d'une langue? Qu'est-ce que nous disent les neurosciences sur cette question?
Alors, ça reste toujours débattu, mais il semble quand même qu'il y a ce qu'on appelle une période critique, c'est-à-dire que plus on vieillit, plus ça devient difficile d'acquérir une langue. Alors, évidemment, il y a les cas catastrophiques catastrophique d'enfants sauvages. Il n'y a pas seulement l'enfant sauvage de l'Aveyron. Il y en a eu deux petites filles en Inde. Il y a eu une pauvre jeune fille aux États-Unis, Jenny, qui a été très étudiée. Et donc là, le problème se pose aussi du fait que ces enfants n'ont pas eu de contacts sociaux et donc de l'importance de vivre avec quelqu'un d'autre pour arriver aussi à mettre en place le langage. Mais il y a eu des études, je dirais, plus, entre guillemets, normales, avec des enfants sourds, par exemple, qui ont appris tardivement une langue des signes, soit parce que leurs parents autour d'eux ne parlaient pas la langue des signes, donc n'arrivaient pas à communiquer avec eux. Et on voit effectivement qu'il est beaucoup plus difficile d'acquérir une langue parfaitement habile et experte si on apprend tard.
Une des choses qui est fascinante dans le développement des capacités cognitives d'un enfant qui n'aurait pas des difficultés de ce type, c'est-à-dire qui ne serait pas abandonné ou qui ne serait pas non plus sourd, c'est que l'enfant élevé donc dans des conditions normales parvient à maîtriser une langue en à peu près 3 ans. Mm-hmm. C'est un processus très rapide, hein, si on pense à la difficulté qu'on a, nous adultes, à apprendre une langue étrangère. Quelles sont les grandes étapes de cet apprentissage ?
Alors, la première année de vie où on a l'impression que le bébé fait pas encore grand-chose parce qu'on l'entend pas encore beaucoup à part un peu les vocalisations puis le babillage, est en fait marquée par le fait qu'il apprend les caractéristiques sonores de sa langue. Donc il va d'abord apprendre la mélodie et le rythme de la langue. Puis par exemple, où est-ce qu'on met l'accent dans les mots en français ? Par exemple, l'accent est toujours sur la dernière syllabe du mot. Et on a une langue qu'on appelle syllabique, c'est-à-dire une langue avec un rythme assez constant, contrairement à l'anglais qui est une langue où nous avons des syllabes fortes et des syllabes faibles, donc une langue beaucoup plus accentuée que le français. Donc ça, c'est des caractéristiques qu'il apprend dans la première année de vie. Il apprend aussi quels sont les sons que sa langue utilise. Toutes les langues n'utilisent pas tous les sons possibles. Par exemple, quand on veut se moquer d'un accent japonais, on dit « honorable ami », on transforme le « r » en « l » parce que les japonais adultes n'entendent pas la différence entre « ra » et « la », alors que le bébé japonais l'entend très bien, puisqu'un bébé va apprendre n'importe quelle langue suivant le milieu dans lequel il est. Donc au départ, les enfants, pour en revenir un peu à ce que disait Françoise Dolto au tout départ, les enfants sont plus intelligents que nous. Je ne sais pas s'ils sont plus intelligents, mais c'est vrai que leurs capacités perceptives sont bien meilleures que les nôtres, puisque au départ, ils vont pouvoir percevoir un peu tous les contrastes linguistiques utilisés par les langues, alors que nous, adultes, nous avons restreint notre perception à celles qui sont utilisées par la langue maternelle. Et donc ça se fait pendant la première année de vie. Alors ensuite, les recherches ont montré aussi que ce qu'on croyait beaucoup plus tardif, comme par exemple apprendre quelques mots, c'était présent beaucoup plus tôt. Par exemple, un enfant de 4 mois, c'est déjà papa, maman, son prénom. Il y a une expérience américaine qui dit aussi qu'il sait hug, donc embrasser, eat, manger, foot, donc le pied. Donc il a une dizaine de mots et on dit généralement qu'à la fin de la première année de vie, il comprend déjà 50 mots, alors qu'il produit toujours rien. Enfin, il fait bababa, re, des choses comme ça. Donc on a une avance très nette de la perception sur la production. Ensuite, il va aussi repérer des choses très intéressantes et beaucoup plus abstraites qui sont liées à la syntaxe. Donc la syntaxe, c'est le fait d'organiser les mots dans la phrase. Il suffit pas de savoir le chat poursuit le chien, donc de savoir chat poursuit et chien. Il faut savoir dans quel ordre mettre ces mots, parce que le chat poursuit le chien, c'est pas la même chose que le chien poursuit le chat, et c'est pas la même chose que le chien est poursuivi par le chat. Donc là, vous avez un ordre de mots qui est le même, mais vous avez introduit la forme passive et vous changez complètement le sens de la phrase. Donc il faut aussi apprendre la syntaxe de la langue, qui est aussi différente suivant les langues. Et il semble que même pendant la première année de vie, le bébé a déjà une idée de la structure de sa langue. Il a déjà repéré ce qu'on appelle les petits mots de fonction, c'est-à-dire les articles. Pourquoi ? Parce que le est souvent en départ de phrase, donc il va reconnaître que cette syllabe revient tout le temps. Il va déjà aussi savoir que l'œil est plutôt associé avec des noms, que les noms vont plutôt représenter des objets, alors que les actions vont plutôt être des verbes. Donc, vous voyez, il y a déjà quelque chose comme cela. Et puis, vers 18-24 mois, on a la grande explosion lexicale où les bébés quasiment apprennent 50 mots par jour. Tout d'un coup, on voit, les parents sont émerveillés parce que pour les parents, c'est là que démarre le langage. Alors qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que ça existe depuis 18 mois, en fait. Et puis ensuite, eh bien, il va commencer à parler parce que ce qui gêne beaucoup l'enfant, c'est l'immaturité de son système moteur. Donc en fait, il a beaucoup de mal à apprendre à coordonner tous les muscles de la langue, de la bouche, du larynx, pour produire correctement les mots. Et donc, sa production est très en retard par rapport à sa perception. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne comprend pas et qu'il n'est pas déjà capable de comprendre des phrases, somme toute assez simples, hein, parce que on a cru très longtemps, bah, 3 ans, on dit, bah voilà, il sait. Hein. En fait, la grammaire se complexifie jusqu'à 11-12 ans, parce qu'on va lire des livres, le vocabulaire va encore augmenter considérablement grâce à la lecture, on oublie aussi le rôle de la lecture dans le développement du langage oral, et donc ça continue aussi bien après. Mais disons que les grands fondements sont déjà là pendant les 3 premières années de vie, et en gros, en fait, pendant la première année de vie, le bébé a déjà compris ce qui se passe avec la parole.
Oui, la mise en œuvre motrice prend du temps, mais en réalité, d'un point de vue cérébral, beaucoup de choses sont en place bien avant l'explosion.
Sont en place. Ça ne veut pas dire qu'il comprend, qu'il comprend tout, parce que un peu le reproche qu'on peut faire à certains pédiatres et à certains psychiatres, c'est une fois qu'on a dit que le bébé perçoit la parole, comprend la parole, ils en déduisent, ils comprennent aussi bien que l'adulte, ce qui n'est pas vrai. Au départ, il va repérer ce que j'ai dit, les sons, le rythme, il va aussi savoir si vous le dites d'une façon heureuse ou malheureuse, donc ça, mais plutôt après, en fait, il est bien meilleur pour percevoir des aspects formels du langage que peut-être les émotions ou les voix, où au départ il n'est pas si bon que ça, c'est un petit peu retardé. Alors quand je dis un peu retardé, c'est-à-dire c'est pas à la naissance, mais c'est dans les mois qui suivent, c'est plutôt le deuxième semestre, où on voit qu'il devient très bon pour reconnaître des voix, pour reconnaître les sentiments, le bonheur, le fait que vous ne soyez pas content, la forme interrogative. Mais bon, c'est un petit peu en retard par rapport à des aspects qui nous semblaient au départ peut-être plus difficiles, comme de reconnaître des phrases de sa langue maternelle. Eh ben non, il est plus fort pour ça.
J'ai lu dans l'un de vos articles un exemple qui est assez éclairant à ce sujet. Vous disiez, un enfant est capable, par exemple, de dire « ils sont partis » au lieu de « ils étaient partis ». Ça, c'est un exemple très concret qu'on peut constater chez des jeunes enfants, du fait que l'enfant est capable, en fait, d'analyser des structures grammaticales. Voilà, parce qu'ils sont, c'est plus juste.
C'est plus juste, oui.
D'une
certaine manière, il est hyper grammatical, il régularise beaucoup mieux que nous. Et en fait, il fait des erreurs que ne feront pas d'ailleurs du tout des adultes apprenant le français. Ce qui prouve qu'on n'utilise pas, quand on apprend la deuxième langue, les mêmes principes que ce qu'on utilise pour la première langue. Et les bébés sont très régularisateurs, c'est-à-dire qu'ils vont pour le principe, parce qu'en fait leur mémoire n'est pas très bonne. Donc en fait, ils montent tout de suite à un niveau quelque part plus abstrait, et donc vont coder des règles plutôt que d'utiliser la mémoire, et donc s'apercevoir qu'il y a des formes irrégulières, comme ils étaient pour son, au lieu de... Alors que la forme régulière, comme pour chanter, c'est il chantait.
We are. We are. We are. We are. Many bubble lady, bill bar, bill baby, bubbling bubbles in bed, when bell be round us bell. Happy, bubbly you, bubbly me. We'll be a bubbly baby, bubbling bubbles in my belly. A little beetle or a bee, a bird. Maybe a bit of you and me. Bubble lady. Many a bubble lady, bubbling along a bubbly bee, bubbloop, bubbla, bubble wobbly lullaby, happy, bubbly wobbly lady. Happy, bubbly you, bubbly me. Happy, bubbly wobbly baby.
Vous êtes sur France Culture à l'écoute de l'émission Les Passeurs de Sciences. Comme tous les samedis du mois de juillet, nous explorons les méandres du cerveau. Et aujourd'hui, racontons le temps de sa formation chez le nourrisson avec la pédiatre Ghislaine Dehaene. Ghislaine Dehaene, j'ai lu parmi des études récentes qui ont été faites, une étude faite au Nicaragua, je crois, qui déclare fièrement les bébés inventent la langue. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette...
Oui, c'est une histoire très intéressante parce que au moment de la révolution sandiniste, on a ouvert une école pour sourds qui n'existait pas avant. Donc on a tout d'un coup regroupé au même endroit des enfants sourds qui vivaient séparément. Et donc ce qu'on a vu, et ce qui a intéressé les linguistes, c'est qu'on a vu se créer devant nous une nouvelle langue qui est la langue des signes du Nicaragua, puisque les premiers enfants ont commencé à essayer de communiquer, donc à faire des signes un petit peu du mime en fait, et puis on a vu au fur et à mesure des générations suivantes ces signes se régulariser et devenir une vraie langue. Alors c'est un petit peu la même chose que la création des créoles en fait, puisqu'au départ quand vous mettez ensemble des adultes venant de différentes langues orales et qui doivent communiquer, eh bien on a ce qu'on appelle le pidgin, hein, tout se mélange, on prend un mot d'ici, un mot de là, mais on n'est pas systématique. Et la génération suivante crée une nouvelle langue, donc les créoles, qui sont en fait des créations des enfants qui, eux, ont régularisé en fait tous ces apports des différentes langues.
Vous avez évoqué tout à l'heure l'importance de la lecture dans cet apprentissage de la parole, qu'en fait les deux choses étaient liées. Vous avez participé il y a quelques années à un ouvrage qui s'appelle « Apprendre à lire des sciences cognitives à la salle de classe » sous la direction de Stanislas Dehaene. Tout un champ des neurosciences aujourd'hui se penche sur les applications concrètes des découvertes scientifiques dans ce domaine et notamment pour l'école. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de décrire les mécanismes cérébraux de l'apprentissage de la lecture?
Oui, on y voit un peu plus clair pour la lecture d'ailleurs que pour le langage oral qui nous reste encore très obscur. Parce que la lecture, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose de relativement simple, c'est d'arriver à mettre en correspondance un signe sur une feuille de papier avec le langage oral. Donc le grand travail, c'est les réseaux du langage oral qui, eux, sont développés depuis très longtemps. Et le système visuel va apprendre à reconnaître des formes très précises et associer ces formes avec le langage oral. Donc on sait maintenant à peu près quelles sont les régions qui rentrent en jeu, comment elles se développent, comment elles vont augmenter leurs connexions, parce qu'on ne va pas créer des connexions. Vraisemblablement, peut-être, quand on parle, on a aussi, on voit un visage parler, donc on a déjà une relation entre la vision et l'audition. Quand on voit quelqu'un parler, on a les deux qui sont activés en même temps. Et donc, la lecture bénéficie un petit peu de ces réseaux déjà créés pour arriver à transmettre via le papier une nouvelle forme du langage oral.
Et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conséquence en termes très pratiques, notamment pour les enseignants? Est-ce qu'il faut en tirer des conséquences? Et si oui, lesquelles?
Sur la lecture ou même sur le langage en général, il faut développer le langage. Une des grandes préparations à la lecture est bien sûr d'abord d'augmenter le vocabulaire, donc de raconter des histoires aux enfants, de leur montrer que c'est intéressant d'utiliser le langage. La deuxième chose, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire et que ne savent pas faire les illettrés, que ne sait pas faire le jeune enfant, c'est de décomposer les syllabes dans leur son élémentaire, c'est-à-dire de savoir que ba c'est ba, donc le fameux ba ba, puisque ça c'est quelque chose qu'on doit apprendre de façon explicite. Autant le langage se développe en fait sans que les parents donnent des cours de langage à leurs enfants, ça leur vient spontanément. Autant la lecture demande un travail très explicite sur la décomposition des sons de la parole en ces éléments plus simples que sont les phonèmes. Donc il faut attirer l'attention de l'enfant sur la constitution de ces phonèmes et s'apercevoir que ba, bi, bo, c'est toujours le même son b au départ, que ab a le même son b à la fin, et ça doit être enseigné de façon très explicite. Un illettré, même très intelligent, a beaucoup de mal à faire ce genre de choses, n'arrive pas à comprendre que ba, bi, bo, bu ont le même son en premier. Il faut vraiment attirer l'attention des enfants et leur faire apprendre. Alors ensuite, après, il faut mettre ça en correspondance avec une lettre. Mais une des choses que, par exemple, peuvent faire les enfants en maternelle, les parents avec leurs enfants, c'est de s'amuser à faire ces jeux sur les mots.
Mais est-ce que ça veut dire que ce qu'on appelle la méthode globale, c'est pas une bonne méthode?
Non, c'est pas une très bonne méthode parce qu'elle n'attire pas l'attention de l'enfant sur ce genre de choses. Alors, évidemment, est-ce qu'il y a toujours de la méthode globale ou pas? Normalement, il y en a plus. C'est vrai que souvent, à l'école, on va attirer l'attention de l'enfant sur des exercices qui ne sont pas très pertinents pour lui. Par exemple, une des choses intéressantes qu'on peut faire, à l'envers, plutôt de dire ce qu'il faut pas faire, c'est que be et de présentent deux difficultés. Sur le plan sonore, ba et da sont deux sons extrêmement proches. La différence entre be et de est donnée en 40 millisecondes. Donc, si vous êtes un peu lent, et beaucoup de dyslexiques ont ces problèmes de perception de phonèmes proches, vous n'allez pas entendre la différence entre bateau, gâteau, dato, tout ça. C'est un peu... Bon, quand on parle de bateau, on parle pas de gâteau, donc on s'en sort un peu. Mais si vous devez l'écrire, ça devient catastrophique de ne pas entendre la différence. Et la deuxième chose, c'est que be et de en forme script, c'est exactement l'image en miroir. Or, on sait que le système visuel, au départ, n'a pas besoin de discriminer des choses en miroir. Si vous avez une poêle avec son manche à gauche ou son manche à droite, pour reconnaître la poêle, c'est pas un problème. C'est toujours une poêle. Si un tigre, il arrive à gauche ou si un tigre arrive à droite, c'est toujours un tigre. Vous n'avez pas besoin de reconnaître la différence entre la forme droite et la forme gauche du tigre. Par contre, pour la lecture, peu et que, de et be sont des formes miroirs et donc vous devez apprendre à les différencier. Vous devez apprendre à votre système visuel à utiliser cette différence qu'il ignorait jusque-là.
Bon, j'attends. Où tu me le mets? Fais gaffe.
Là.
Où?
Bah là.
Une claque, t'en veux une?
Regarde les chiffres après la virgule.
Bah, il y en a trois.
Et avant?
Trois aussi.
Appelle ton oncle qui t'aide.
Ouais, deux fois six.
Deux fois six claques, ça fait combien?
Deux fois six.
Un des un.
6 et 6.
12. 2 fois 6, 12.
Tiens, en plus, il a mis ta main.
Il a retenu.
2 fois 6, 12. Et. 2 fois 6, 12. Et 4. Je sais pas où j'en suis.
Non plus, j'ai perdu le film.
Et puis là, il y a une erreur.
Ah oui, parce que c'est pas décalé.
C'est pas décalé, t'as oublié cette bête-là.
Oui, mais...
Elle doit être ici, là, cette bête-là. Là.
Là.
Oui.
Ouais,
c'est un 4, ça?
Bah oui.
Là, le 4 ici. Le 3 ici. Et 8 ici.
Un extrait du film de Nicolas Philibert, un documentaire qui était sorti en 2002, Être et Avoir. Le film suivait pendant une année la classe unique d'un instituteur dans une petite commune d'Auvergne et s'aventurait parfois aussi hors de la salle de classe, hein, comme dans cet extrait où l'on entend toute la famille d'un jeune élève de CM2 tâcher de l'aider à faire son devoir de mathématiques. Ghislaine Dehaene, aujourd'hui, les sciences cognitives ne se concentrent pas uniquement sur l'apprentissage de la parole ou de la lecture, hein, qu'on a évoqué, mais aussi sur d'autres capacités cognitives comme les mathématiques. Est-ce que on a fait des découvertes importantes dans ce domaine récemment?
Oui, bon, on en fait toujours puisque c'est notre job. Donc, maintenant, est-ce qu'on a
lesquelles?
Tout compris?
Est-ce que un jeune enfant sait calculer? Quand je dis un jeune enfant, je veux dire un bébé. Est-ce que à quel âge ça commence l'apprentissage du calcul?
Les bébés comme les animaux savent déjà où il y en a plus, où il y en a le moins. Parce que vous comprenez que dans l'évolution, c'était quand même intéressant de monter dans l'arbre où il y avait le plus de fruits ou de fuir là où il y avait le moins de prédateurs. Donc en fait, arriver à discriminer des quantités, quelque chose de de présente très précocement, et à la naissance, Véronique Izard, notre collègue du CNRS, a montré que effectivement les bébés pouvaient discriminer deux éléments de 4, 4 de 8. Et on ne peut pas faire 4 versus 5, par contre. Ça, il faut le calcul exact, qui est une capacité qui se développe ensuite, qui se développe, elle, de façon explicite. Il faut apprendre à compter. C'est comme ça qu'on a un certain nombre de capacités qu'on a dès le départ. On a le langage oral, on a les capacités à discriminer des quantités, on a des systèmes d'orientation, des systèmes moteurs qui sont communs à toute l'espèce, et puis par-dessus ces capacités qu'on partage tous les uns et les autres, et dont certains éléments sont parfois déjà présents chez les autres animaux, comme ces capacités à discriminer des nombres, on a la culture qui va essayer d'amplifier ces capacités, comme le calcul exact par rapport à ces calculs approximatifs, comme la lecture par rapport au langage oral, comme la musique par rapport à nos compétences de rythme qui existent dès le départ.
Et là encore, je vais vous poser la question de la méthode. Comment on a pu observer qu'un bébé de 4 mois discrimine des nombres?
C'est pas évident. C'est toujours d'imaginer. La même chose. On joue toujours sur la surprise. Ou alors, les méthodes actuelles utilisent beaucoup aussi l'imagerie. Par exemple, on peut poser des capteurs sur la tête d'un bébé, comme pour faire un électroencéphalogramme. Sauf que là, on ne se contente pas de juste laisser le bébé endormi dans son lit. On va lui présenter des images. On présente 4 balles qui sont évidemment pas toujours à la même position pour que ça change d'un essai à l'autre. Et puis tout d'un coup, on en présente 8 et on a à nouveau une réaction de surprise qu'on mesure directement dans le cerveau. Donc on voit très bien, ça c'est des méthodes très efficaces pour essayer de voir ce que les bébés perçoivent.
Ghislaine Dehaene, on arrive déjà presque à la fin de cet entretien. Je voulais vous demander pour conclure, est-ce que les recherches dans ce domaine en neurosciences sur les nourrissons, ça intéresse beaucoup de monde? Est-ce que c'est un secteur qui se développe ou est-ce que c'est au contraire un endroit un peu laissé de côté?
Ça a été très longtemps un peu laissé de côté parce qu'évidemment, comme tout à chacun, on pense les bébés c'est mignon, mais c'est pas plus que ça. Et puis en plus, on avait ces méthodes très indirectes. Donc quand on allait dans un congrès de neurosciences où ils ont des cellules, des choses très compliquées, et qu'on venait leur montrer un bébé en train de téter, on leur disait bah voilà, on a pu montrer que les bébés faisaient la différence entre 4 et 8 balles. Ils vous regardaient avec des gros yeux en disant « mais c'est pas possible, c'est n'importe quoi ». Et donc, ça faisait pas sérieux. Alors maintenant, on a des méthodes d'imagerie, comme l'électroencéphalogramme dont je parlais tout à l'heure, où on a des images. Alors, je sais pas pourquoi, mais les images, c'est toujours plus convaincant. Mais aussi parce qu'on se rend compte que pour comprendre le cerveau, on peut pas regarder seulement le cerveau de l'adulte ou le cerveau de l'animal. Il nous faut à tout prix comprendre qu'est-ce qui fait la différence au départ. Pourquoi le cerveau des petits bébés de quelques semaines sont déjà capables de faire autant de choses, qu'est-ce qui, dans ces réseaux neuronaux, explique qu'on puisse faire du langage, explique qu'on puisse apprendre à calculer. Et donc ça, on a besoin d'aller voir directement l'adulte, on est déjà trop tard. Si on compare un cerveau d'adulte avec un cerveau de macaque ou de chimpanzé, évidemment, on a 20 ans d'éducation où on a renforcé tout. Donc c'est pas très juste pour le pauvre singe d'être comparé à un adulte qui a été à l'université. Je veux dire, s'ils n'arrivent pas à faire les mêmes choses, c'est peut-être juste l'éducation. Donc, c'est pour ça qu'on s'est de plus en plus intéressé aux nourrissons. L'autre chose aussi, c'est qu'on a complètement changé notre vue du bébé. Et je tenais à le dire parce que très longtemps, on a vu le bébé comme une espèce d'argile qui était modelée par l'environnement. Or, ce qu'ont montré les données d'imagerie, c'est qu'en fait, le bébé est très actif dans son apprentissage. Le bébé cherche l'information. Et ça, c'est une propriété des cerveaux en général, du cerveau des autres animaux aussi, mais d'autant plus du bébé humain. Le bébé humain est curieux. And you got me like a what you want from me. What you want from me. And try to buy your pretty heart, but the price too high. Baby, you got me like gold. You love when I fall apart. So you can put me together and throw me against the wall. Baby, you got me like gold.
Merci beaucoup Ghislaine Dehaene. Pour aller plus loin sur ce sujet, je renvoie nos auditeurs à deux ouvrages auxquels vous avez participé. La plus belle histoire du langage qui était paru au Seuil et puis Apprendre à lire, des sciences cognitives à la salle de classe chez Odile Jacob. Ces références et d'autres sont à retrouver sur le site de France Culture à la page de l'émission Les Passeurs de Sciences où vous pourrez aussi la réécouter et en télécharger tous les épisodes. Pour la suite de ces émissions, je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Ce sera le dernier épisode de notre série consacrée à l'informatique avec Gérard Berry, professeur au Collège de France, et le compositeur Philippe Manoury. Nous parlerons demain de l'étonnante rencontre entre l'informatique et la musique. C'était Les Passeurs de Sciences, le cerveau, une émission en partenariat avec le magazine Science et Vie, proposée par Mathilde Wagman, réalisée par Assia Khalid, avec aujourd'hui à la technique Jean-Richard Dufour. Just to get close to you, could we burn something, babe? And I'll run for miles just to get a taste. Must be.